en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le juriste Gilbert Guillaume a donné le lundi 24 octobre 2011 une communication à l'Académie des sciences morales et politiques intitulée « Le droit au juge, droit ou slogan ?». Gilbert Guillaume, qui fut entre autres fonction président de la Cour internationale de justice, a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 5 mars 2007 dans la section « Législation, droit public et jurisprudence » au fauteuil laissé vacant par le décès de l'avocat Jean-Marc Varou. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances.
Je commencerai simplement en rappelant que le développement de l'individualisme dans nos sociétés a conduit à une multiplication des droits reconnus aux uns et aux autres. Il y a eu les droits civils et politiques de la Révolution américaine et de la Révolution française. Il y a eu ensuite les droits économiques et sociaux nés de la Révolution industrielle et du marxisme. Et puis, il y a eu ensuite ce qu'on a appelé les droits de la troisième génération, c'est-à-dire ceux qui tendent à la préservation et à l'amélioration de la qualité de la vie. L'univers des droits de l'homme est devenu, comme l'univers lui-même, un monde en expansion accélérée, dont les limites sont chaque jour repoussées par des textes foisonnants au prix de contradictions croissantes. Au droit à la vie pourrait demain s'ajouter le droit à la mort programmée, le droit à l'enfant est revendiqué en même temps que le droit à l'interruption volontaire de grossesse, du droit aux soins, on est passé au droit à la santé, du droit au travail, au droit de travailler au pays natal, et du droit de grève au droit de retrait. Et même, on a maintenant le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qui a trouvé sa place dans la Constitution française, qui a consacré à cet effet le principe de précaution. Alors, proclamer des droits, c'est facile. En assurer le respect est un peu plus difficile. Deux étapes sont nécessaires. D'abord, tout droit implique des obligations, et pour un juriste, des obligations, c'est un bénéficiaire, un contenu et un redevable. Encore faut-il que ce dernier dispose des moyens matériels et financiers lui permettant de s'acquitter de ses obligations. Soucieux de contraindre la puissance publique à tenir ses promesses, les défenseurs des droits de l'homme en sont venus à imaginer le concept d'un droit opposable, ce qui laisserait à penser que les autres ne créent aucune obligation juridique. Ainsi, le droit à un logement décent et indépendant, je cite, est devenu en France opposable aux collectivités publiques par la loi du 5 mars 2007. Et puis, une fois un droit proclamé et garanti, il faut en assurer le respect. Et en cas de manquement, sanctionner ces manquements. C'est là qu'intervient le juge, et par voie de conséquence, un nouveau droit, le droit au juge. Ce recours au juge reflète de manière générale le rôle croissant que nos contemporains entendent lui donner dans nos sociétés. Cette juridictionnalisation des rapports sociaux a de multiples causes. Régression des religions traditionnelles, développement de l'économie de marché, progrès de l'instruction, pression des moyens de communication de masse, et enfin action de juristes devenus des marchands de droit, friands de procès. Mais le concept même de droit au juge a été forgé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a vu un moyen d'étendre son contrôle sur l'organisation et le fonctionnement de la justice dans les pays membres du Conseil de l'Europe. Ceci étant dit, il est très difficile d'en fixer les contours. Chacun y trouve en fait ce qu'il y a amené, comme autrefois dans les auberges espagnoles, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je chercherai donc, si vous voulez bien, dans un premier temps à préciser le contenu du droit au juge, et dans un deuxième temps, de tenter d'en apprécier les mérites. Le droit au juge peut a priori être défini de manière stricte, comme le droit d'accéder au juge, le droit de s'adresser au juge. Mais un tel droit, pour être réel, doit être effectif. Du droit au juge, on passe alors au droit au vrai juge, puis au droit au bon juge. Le droit au juge peut aller même jusqu'au droit au jugement, voire à l'exécution du jugement. Derrière le droit au juge profile ainsi l'aspiration, sinon le droit à la justice, et je reprendrai successivement chacun de ces aspects prétendus du droit au juge. Le noyau dur de ce droit est incontestablement le droit à saisir le juge, le droit d'agir en justice, qui constitue en fait la conséquence nécessaire du fait que l'État, s'est arrogé le monopole du pouvoir légitime et qu'il interdit aux citoyens de se faire eux-mêmes justice. L'abolition de la justice privée suppose l'accès à la justice étatique. Sous cette forme minimale, le droit au juge a toujours été reconnu dans son principe en France, quel que soit l'ordre juridictionnel compétent. Le Conseil d'État, le premier, en a rappelé les exigences dans sa décision Salan du 11 mai 1962, en suivant les conclusions de son commissaire du gouvernement, selon lequel tout individu, je le cite, a le droit d'obtenir un juge. C'est sur ce terrain qu'il s'est reconnu compétent pour connaître du recours qu'avait dirigé le général Salan contre le décret le renvoyant devant une juridiction d'exception. Le droit pénal reconnaît lui aussi le droit au juge, le droit civil aussi, article 30 du Code de procédure civile. Et enfin, le Conseil constitutionnel lui-même a rappelé, en se fondant sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la loi ne saurait porter, je cite, « d'atteinte substantielle au droit des intéressés d'exercer un recours effectif devant une juridiction ». Ainsi, le juge français reconnaît aux citoyens le droit de saisir le juge. Depuis des décennies, il proclame le droit au juge, sans user de ces termes, comme M. de Jourdain faisait autrefois de la prose sans le savoir. Le concept, par contre, apparaît dans de nombreuses constitutions étrangères, sous des formes variées. La constitution espagnole, la constitution allemande, la constitution italienne, la constitution belge, la constitution portugaise. Certaines vont même d'ailleurs au-delà, c'est le cas de la constitution italienne, en parlant d'un droit à son juge naturel. C'est une formule qui vient de la charte de 1815, où, après les errements de la terreur révolutionnaire, on a voulu incorporer dans la charte une disposition évitant le recours aux juridictions d'exception. Et elle se retrouve donc dans quelques constitutions récentes. Ceci étant dit, comme personne n'a jamais su ce que c'était qu'un juge naturel, il est évident que la portée de cette disposition n'est pas aisée à cerner. Enfin, le droit au juge, sous la forme d'accès au juge, est garanti par les traités européens dans les domaines couverts par ces derniers, qu'il s'agisse de la Convention européenne des droits de l'homme ou qu'il s'agisse de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc la cause paraît entendue, explicitement ou implicitement, le droit à l'accès au juge est reconnu en droit français comme en droit européen. Mais ceci ne signifie pas que ce droit soit sans limite, comme tout droit. Des pressions nombreuses se sont exercées et s'exercent aujourd'hui pour repousser ces limites. Certaines sont justifiées, d'autres le sont moins. Prenons-les une à une. Observons tout d'abord que s'il a toujours existé un droit d'accès au juge national, un tel droit n'existe pas en ce qui concerne le juge international au niveau mondial. C'est qu'en l'état de la société internationale, seul l'État détient le monopole de la contrainte légitime. Dès lors, le renoncement par le citoyen à la justice privée n'a pas pour contrepartie nécessaire l'accès à la justice internationale. Les particuliers ne peuvent donc pas se présenter devant la Cour internationale de justice, le tribunal du droit de la mer, l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce ou les juridictions pénales internationales. Mais une évolution se dessine à cet égard. Dans certains cas, les personnes physiques ou morales ont été admises par le juge à faire valoir leur point de vue devant le juge interétatique, selon une formule empruntée en droit anglo-saxon, comme amicus, ou plutôt amici, curiae. C'est le cas de l'Organisation mondiale du commerce, par exemple. Par ailleurs, dans le cas de la Cour pénale internationale, si les victimes des infractions ne peuvent pas saisir la Cour, cette dernière a le pouvoir de les entendre et en cas de condamnation de l'accusé, de leur accorder des réparations. Il n'est pas certain, à mon sentiment, que ces évolutions soient heureuses. L'intervention des groupes de pression dans les contentieux interétatiques risque en effet de durcir ces contentieux. Quant à la participation des victimes au procès pénal international, elle a jusqu'à présent généré des coûts considérables et des lenteurs regrettables. Alors, au niveau régional, la situation est toute différente, puisque aussi bien devant la Cour européenne des droits de l'homme que devant la Cour de Luxembourg, il y a des possibilités d'accéder au juge, soit directement dans certains cas, soit par la voie des questions préjudicielles dans d'autres cas. Mais ceci est une étape dans la construction européenne. Si l'on passe maintenant du droit international au droit interne, relevons que le droit au juge n'applique en principe, dans les droits nationaux, ni le droit de choisir librement son juge, ni celui de s'adresser à plusieurs juges, à travers l'appel ou la cassation. Choisir son juge est évidemment le rêve du plaideur, à la recherche du magistrat, qui lui sera a priori le plus favorable. Une telle recherche n'est en principe pas permise en droit français. La compétence des tribunaux est fixée par la loi, et les plaideurs ne peuvent y échapper, sauf entre commerçants. Certains tentent peut-être de le faire, toutefois en usant du droit de récusation ou en présentant des requêtes en suspicion légitime contre les juges qu'ils souhaitent écarter. Des abus ont été constatés récemment en ce domaine, ils doivent être condamnés. En revanche, les justiciables peuvent beaucoup plus aisément parvenir à leur fin dans les affaires dans lesquelles les tribunaux de plusieurs pays ont compétence, en se réclamant du droit au juge dans chacun de ces pays. La course aux tribunaux, ce qu'on dénomme généralement en franglais le forum shopping, est devenue de ce fait le sport favori des avocats internationaux, par exemple en cas d'accident aérien. Il a évidemment des limites, mais il est tout de même très répandu. Alors, il existe à l'inverse des cas dans lesquels il n'existe aucune juridiction nationale compétente pour juger d'une affaire. Un tel déni de justice étant difficile à accepter, certains ont imaginé que sous certaines conditions, le juge incompétent se déclare compétent. La Cour de cassation s'y est résolue une fois, dans une affaire dans laquelle l'État iranien avait tenté avec succès d'échapper à ses obligations. Mais il s'agit là d'affaires rarissimes. Dans ce domaine, c'est le trop-plein et non le vide qui est à craindre. Une question plus difficile et plus technique a été de savoir si le droit au juge implique ou non le droit d'accéder à plusieurs juges. Y a-t-il un droit au juge d'appel ? Y a-t-il un droit au juge de cassation ? En droit international comme en droit comparé, cette question appelle une réponse négative. La Cour de Strasbourg l'a tranchée à deux reprises en ce qui concerne la Belgique et la Suisse. Et la Cour de Karlsruhe a décidé, selon une formule intéressante, que la Constitution allemande garantit la protection juridique par le juge et non contre le juge. En droit français, la situation est plus complexe. Il existe certes des jugements non susceptibles d'appel, tant en droit pénal, par exemple pour les tribunaux de simple police, qu'en droit commercial, pour le redressement et la liquidation judiciaire dans certains cas. Mais ces exceptions ont été en se réduisant, et la plus importante d'entre elles, celle qui concernait les cours d'assises, a été supprimée, puisqu'il y a maintenant des cours d'assises d'appel. L'évolution est comparable en ce qui concerne le recours en cassation. Le Conseil d'État a jugé ce recours d'une telle importance qu'il en a reconnu l'existence dans tous les cas où la loi ne l'exclut pas expressément. Et dans l'affaire Canal, en 1962, il a en outre annulé l'ordonnance créant la Cour militaire de justice, compte tenu des atteintes graves et importantes apportées par ce texte, je cite, aux principes généraux de droit pénal et notamment l'exclusion de toute voie de recours. Bon, il y a donc là une part d'incertitude, je dirais de manière générale, sur la question du droit à l'appel et du droit à la cassation qui n'est pas traité nécessairement de la même manière dans tous les pays. Alors le droit au juge ainsi défini, c'est-à-dire le droit à saisir le juge, à saisir un juge plus exactement, en droit national, connaît par ailleurs des limitations. L'accès aux tribunaux appelle, par sa nature même, une réglementation. Ces limitations ne doivent pas restreindre le droit au juge d'une manière telle qu'il s'en trouverait atteint dans sa substance même, mais il y en a nécessairement, elles doivent entretenir, selon la Cour de Strasbourg, un rapport raisonnable de proportionnalité, terme cher à certains d'entre nous, entre les moyens employés et le but visé. De telles restrictions sont traditionnelles en droit français. Elles ont été consacrées en ce qui concerne la France par le Conseil constitutionnel. Elles sont cependant contestées par certains défenseurs des droits de l'homme et certains professionnels du droit. Quelles sont-elles? Premièrement, l'intérêt et la qualité à agir. Nous n'avons pas d'actio popularis. Il faut démontrer un minimum d'intérêt ou de qualité pour pouvoir saisir le juge. Cette qualité varie selon les domaines. S'agissant du droit pénal, par exemple, on sait que les victimes d'une infraction peuvent déposer une plainte avec constitution de partie civile et déclencher ainsi l'action publique. Cette procédure est propre à la France et à la Belgique. Elle a pour but de permettre aux intéressés de faire reconnaître la réalité de leur préjudice et d'obtenir la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement de dommages-intérêts. Mais les victimes en ont aujourd'hui une perception très différente, en particulier en cas d'accident aérien, de drame sanitaire ou de catastrophe industrielle. Elles cherchent avant tout à identifier un responsable qui sera condamné à la fois au civil et au pénal. Une affaire qui a été tranchée en juillet dernier par le Conseil d'État illustre cette dérive. L'auteur d'un assassinat s'était pendu dans sa prison. Le parquet, agissant conformément à l'article 6 du Code de procédure pénale, abandonna les poursuites contre le mort. Les parents de la victime s'en plaignirent en soutenant qu'elle jouissait en tant que telle d'un droit au procès pénal et que le décès de l'assassin présumé n'avait pu les priver de ce droit. Le Conseil d'État a écarté ces prétentions en soulignant, je le cite, que si le procès pénal peut avoir pour effet de répondre aux attentes des victimes, tel n'est pas son objet. Ce dernier est de permettre à l'État et à lui seul, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale. Cette décision me semble, pour parler vulgairement, remettre les pendules à l'heure. Le droit d'accès au juge pénal disparaît si le juge pénal ne peut prononcer de sanctions. Autre exemple, le droit d'accès au juge administratif. Il s'est quant à lui élargi progressivement au cours des 150 dernières années et le recours pour excès de pouvoir est aujourd'hui ouvert pratiquement contre toutes les décisions administratives. Il y échappait traditionnellement deux ordres de décision, les mesures d'ordre intérieur et les actes de gouvernement. Les premières ont été en se réduisant comme peau de chagrin. Aujourd'hui peuvent ainsi être déférées au juge administratif les punitions infligées aux militaires, que l'on considérait autrefois comme des mesures d'ordre purement intérieur, et de l'ensemble des mesures prises au sein des établissements pénitentiaires à l'encontre des détenus. La même évolution doit être notée en ce qui concerne les actes de gouvernement non susceptibles de recours contentieux. Il n'y a plus guère aujourd'hui dans cette catégorie que certaines décisions qui ne peuvent pas être détachées des relations internationales. Pour prendre un exemple récent, l'autorisation donnée aux avions anglais et américains de survoler le territoire national durant la guerre d'Irak. Alors, la bonne administration de la justice suppose encore autre chose. Elle suppose des conditions de délai et de forme qui ont été tendues à se réduire dans les dernières décennies, qui sont indispensables, mais qui ne doivent pas évidemment être fixées de manière telle qu'elles interdiraient tout recours. Ajoutons enfin au plan du droit que le droit d'agir en justice comporte le droit de ne pas agir. Et l'on comprend par suite que le juge puisse refuser à reconnaître la recevabilité d'actions de groupe visant en fait des décisions individuelles. Ces actions de groupe ont tendu à se multiplier dans les dernières décennies et la loi américaine a favorisé la présentation de telles actions dénommées, là aussi en franglais, « class actions ». On a beaucoup plaidé en France en faveur de telles actions. Le législateur est heureusement resté prudent. Aussi bien l'expérience américaine a-t-elle peut-être atteint aujourd'hui ses limites. Et l'on doit noter qu'en juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a déclaré irrecevable une action présentée par 3 salariés de Walmart se plaignant de discrimination sexiste au nom d'1,5 million employés de cette firme géante. Si les limites juridiques incitent de l'accès aux juges ont en définitive été en se réduisant progressivement avec le temps, restent les limites matérielles. Le procès a un coût qui peut dissuader de s'adresser aux tribunaux. Ce coût n'est bien entendu pas celui des juges, le temps des épices est révolu, et les juges, contrairement aux arbitres, ne sont pas rémunérés par les parties. Ce coût, c'est celui des conseils. À cet égard, deux courants de pensée se sont toujours manifestés. Selon certains, le meilleur moyen d'ouvrir la justice à tous est de dispenser les justiciables du ministère d'avocats. C'est ce qu'a fait le Conseil d'État en 1912 pour le recours pour excès de pouvoir, c'est le cas devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, c'est le cas en matière prud'homale. Selon d'autres, au contraire, un plaideur ne recourant pas à un ministère d'avocats serait nécessairement dans une situation moins favorable qu'un plaideur bénéficiant d'un tel ministère. La Cour de cassation a préciser ainsi que l'exercice effectif de la défense exigeait que que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défendeur, au juge chargé de statuer sur sa prétention. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue en ce domaine. Cela dépend des domaines. Le fonctionnaire présentant un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative le concernant est généralement à même de défendre ses intérêts, aussi bien et parfois mieux qu'un professionnel du droit. À l'inverse, l'assistance d'un avocat apparaît indispensable en assise, tant pour l'accusé que pour la partie civile. Alors, à partir de là, se pose le problème de l'assistance judiciaire. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 6 de la Convention imposait la mise en place de systèmes d'assistance judiciaire. De tels systèmes ne peuvent en tout état de cause s'adresser qu'aux plus démunis et ont des limites financières. Donc certains frais doivent, me semble-t-il, être laissés à la charge des plaideurs et l'assurance de protection juridique, dont les modalités pourraient d'ailleurs être améliorées, a certainement elle aussi un rôle à jouer en ce domaine. Voilà en ce qui concerne le droit d'accès au juge, ses limites juridiques, ses limites matérielles. Passons maintenant au droit d'accès au vrai juge. Au-delà du droit à saisir le juge, on peut s'interroger sur les garanties qu'offre une telle saisine. Du droit au juge, on glisse alors au droit à un vrai juge. Il en est amené à rechercher quelles sont les conditions d'une véritable justice. Ce glissement a été favorisé dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg par le libellé même de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui donne à toute personne le droit d'être entendue par un tribunal établi par la loi, équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, le tribunal devant être indépendant et impartial. La Cour de justice de l'Union européenne a posé des obligations comparables. Le concept d'instance équitable, inscrit ainsi dans le droit international, est évidemment de ceux qui laissent la place à interprétation. La Cour de Strasbourg en a déduit que chaque partie doit avoir la possibilité raisonnable, voilà encore avec la raison d'origine anglo-saxonne, la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas de manière appréciable par rapport à la partie adverse. C'est le concept de procès équitable qui se confond avec celui d'égalité des armes, cher aux juristes anglo-saxons. Alors, quelles en sont les conditions? Bien entendu, il faut que le recours soit examiné dans un délai raisonnable. Une justice tardive n'est pas une véritable justice. En second lieu, il faut que cette justice soit rendue par un tribunal indépendant et impartial. Là, la difficulté est plus grande. La Cour de Strasbourg prend en compte à cet égard le mode de désignation et la durée du mandat des membres des tribunaux, comme les garanties offertes contre les pressions extérieures. Mais elle se demande aussi, suivant la conception britannique, ce qu'il en est de l'apparence d'indépendance du tribunal, le fameux dicton « The common law justice must not only be done, it must be seen to be done ». Ainsi, pour la Cour de Strasbourg, les tribunaux doivent en premier lieu être subjectivement impartiaux. Aucun de leurs membres ne doit avoir manifesté de parti pris ou de préjugés personnels. Mais ils doivent aussi être objectivement impartiaux, c'est-à-dire avoir une apparence telle que tout doute légitime puisse être écarté. Cette jurisprudence qui se déclare objective a quelque mal à le rester, car les doutes qu'elle évoque ne peuvent être que ceux que chacun a dans son fort intérieur ou dans son système juridique. C'est ainsi que la Cour de Strasbourg a commis une regrettable erreur d'appréciation en ce qui concerne le rôle des avocats généraux près la Cour de cassation. Ceux-ci, on le sait, ne sont nullement partis à l'instance. Ils se bornent à faire connaître leur point de vue à la Cour en toute indépendance. La Cour de Strasbourg n'en a pas moins estimé que l'avocat général pouvait être perçu par les partis comme leur allié ou leur adversaire objectif, et que de ce fait, ils ne pouvaient, avant l'audience, avoir communication du projet d'arrêt, sans que ce dernier soit également communiqué au plaideur, ce qui, à l'évidence, est exclu. Ce jugement a conduit à une complète séparation du parquet général et de la Cour de cassation, et comme observait récemment le procureur général Marin lors de son audience d'installation, il a ruiné une institution séculaire qui fonctionnait à la satisfaction générale. Cette orientation de la jurisprudence strasbourgeoise traduit les progrès de l'impérialisme juridique anglo-saxon. Mais elle correspond en outre à l'incompréhension de l'opinion publique, orientée par les moyens de communication de masse, à l'égard d'organisations trop complexes pour pouvoir être comprises sans effort. Le vocabulaire à cet égard a son importance, et il est heureux que les commissaires du gouvernement après le Conseil d'État, qui ne sont ni commissaires, ni représentants du gouvernement, soient devenus rapporteurs publics sans changer de fonction. Les juges doivent aujourd'hui se soucier davantage qu'hier de leur image, puisque dans le monde contemporain, comme au regard de la Cour de Strasbourg, l'image importe autant, sinon plus, que la réalité. Alors, droit au vrai juge, faut-il encore aller au-delà ? Étendre encore le concept et passer du droit au vrai juge au droit au bon juge ? Certains ont tenté de le faire et le glissement de l'un à l'autre est insensible. Ainsi a-t-on pu soutenir, en ce qui concerne leur cours pour excès de pouvoir, que l'idée d'accès n'est rien sans l'étude des cas d'ouverture, c'est-à-dire des causes possibles d'annulation. Le droit au juge de l'excès de pouvoir impliquerait non seulement que ce dernier puisse être saisi de tous les actes administratifs, sans exception, mais encore qu'il exerce en toutes circonstances un contrôle approfondi sur tous ces actes. Quelle que soit l'appréciation que l'on puisse porter sur ces opinions, on peut avoir les plus grands doutes sur le raisonnement qui consiste à justifier de telles solutions en invoquant le droit au juge. En effet, dans ce cas, ce concept prend une dimension telle qu'il finit par absorber l'ensemble du droit processuel, voire du droit matériel. Et ce droit serait alors conçu dans l'intérêt exclusif du justiciable. Or, ce dernier doit certes être pour le juge la préoccupation première, et le bon juge ne saurait rendre des décisions incompréhensibles pour le justiciable, ou ne l'écouter que de manière distraite, au cours d'audiences portant à la somnolence. Mais le service public de la justice est un service régalien, institué dans l'intérêt de tous, et non au bénéfice de clients, les justiciables se réclamant des normes de l'économie de marché. Le concept de droit au juge ne peut être étendu de telle sorte qu'on risquerait d'aboutir à un tel résultat. Le droit au juge n'en implique pas moins, me semble-t-il, un autre droit qui, lui est intimement lié, à savoir le droit au jugement. En effet, il ne servirait à rien de pouvoir saisir un juge si ce dernier n'était pas dans l'obligation de rendre une décision. Ce droit est reconnu traditionnellement en France, puisque l'article 4 du Code civil dispose depuis l'époque napoléonienne que, et je le cite, « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » Dernier point, dans ces cercles concentriques, faut-il franchir encore une étape supplémentaire et passer du droit au juge au droit à l'exécution du jugement ? Un tel droit existe en France en ce qui concerne les jugements ayant force exécutoire. Mais il est des circonstances dans lesquelles les risques d'exécution d'un jugement font courir à l'ordre public des difficultés telles que les autorités administratives peuvent se refuser à apporter le concours de la force à l'exécution de ces jugements. Ça a été jugé pour la première fois par le Conseil d'État dans une affaire Quiteas bien ancienne, dans laquelle le propriétaire d'un vaste domaine foncier en Tunisie demandait qu'on expulse 8000 Tunisiens de ce domaine pour pouvoir en prendre possession. L'administration française a estimé qu'il y avait là une très grande difficulté et a refusé d'exécuter le jugement. Le Conseil d'État a suivi ce raisonnement, mais a ajouté que dans ces cas, la responsabilité de l'État était engagée, ce qui a été précisé par la suite par une loi de 1991. Quoi qu'il en soit, cette jurisprudence et cette législation se rattache difficilement au droit au juge. Le juge a pour tâche de rendre un jugement. Et il appartient aux autorités publiques d'assurer, si nécessaire, l'exécution forcée de ce jugement. Le différend qui peut naître en cas d'inexécution est différent de celui que le juge avait initialement tranché et peut d'ailleurs relever d'un autre juge. Le droit au juge n'est pas le droit à exécution du jugement, c'est le droit à saisir le juge en cas de non-exécution. Au total, le droit au juge m'apparaît en définitive comme ayant de multiples facettes. Il comporte un noyau incompressible, un véritable droit, le droit de saisir le juge et le droit d'en obtenir un jugement. Il permet de regrouper sous un concept unique de multiples autres droits concernant des matières aussi diverses que l'aide judiciaire, la composition des tribunaux, la procédure, l'exécution des jugements. Mais à mesure qu'on s'éloigne du noyau central, le concept devient plus incertain. Il devient un concept balai qui a permis à la Cour de Strasbourg d'étendre son contrôle. Sa valeur scientifique est douteuse, son utilisation pose des problèmes sérieux. Plutôt que d'un droit au juge, il conviendrait, me semble-t-il, de parler d'un droit au recours, comme d'ailleurs le fait le Conseil constitutionnel. Voilà ce que je voulais vous dire sur le contenu du droit au juge. Je voudrais maintenir un mot, que je vais essayer de faire bref, sur les difficultés que soulève concrètement ce droit et qui concerne à la fois l'organisation et le fonctionnement de la justice et la place de la justice dans la société. La multiplication des recours au nom du droit au juge conduit tout d'abord à un encombrement des tribunaux. Pendant des décennies, le législateur et le juge ont rendu plus aisé l'accès au prétoire, et cette politique a réussi au-delà de toute espérance. En 2010, les tribunaux administratifs en France ont été saisis de 183 283 recours. Les cours administratives d'appel de 27 774, le Conseil d'État de 10 268. Un nombre comparable de décisions a été rendu chaque année. Les juridictions civiles ont rendu en 2009 plus de 2 600 000 jugements. Les juridictions pénales, près de 1 200 000. La Cour de cassation a rendu 28 386 arrêts en 2010. La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie de plus de 600 requêtes. Et la Cour européenne des droits de l'homme a plus de 150 000 dossiers en souffrance, alors qu'elle en juge au mieux 3 000 par an. Dans certains cas, il devient difficile de rendre dans des délais raisonnables des jugements convenablement motivés. Le juge travaille à la chaîne, et le plaideur déçu est amené à se demander si l'accès à la justice qui lui a été libéralement reconnu n'est pas devenu illusoire. Diverses solutions ont été évoquées pour résoudre ce problème. La première consiste à sanctionner l'abus du droit au juge. Le droit français contient des dispositions à cet égard, tant en droit pénal qu'en droit civil et en droit administratif, qui sont compatibles avec le droit international. Mais elles sont d'un maniement délicat, et le juge hésite à y recourir. Je me souviens, quand j'étais commissaire du gouvernement au Conseil d'État, je l'ai proposé 3 fois, j'ai été suivi 1 fois. On peut espérer que dans l'avenir, le juge le fera davantage, mais il est évident qu'il n'y a pas là une panacée. Le problème doit certainement être traité en apportant les améliorations nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la justice, notamment en améliorant les procédures d'urgence, et en désengorgeant les juridictions suprêmes qui ne doivent pas être considérées par le justiciable comme un troisième degré de juridiction. On pourrait également songer à promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends, aujourd'hui très populaires aux États-Unis. Mais en tout état de cause, le droit au juge a un coût, pour l'État comme pour le plaideur. Le budget de la justice a atteint cette année 7 200 millions d'euros. L'assistance judiciaire a coûté 350 millions d'euros. Le chiffre des affaires des avocats représente plus de 8 milliards d'euros. Ces coûts peuvent être répartis de manière variable entre les particuliers et les pouvoirs publics. Ils demeurent et pourraient, si nous n'y prenons garde, poser demain un problème social analogue à celui soulevé aujourd'hui par le droit aux soins. Un avant-goût de ces difficultés nous est d'ores et déjà fourni par la réforme de la garde à vue en France. En effet, la présence de l'avocat dès le début de cette procédure entraînera nécessairement un accroissement des dépenses d'assistance judiciaire. Compte tenu de la situation budgétaire de l'État, le législateur a entendu financer une partie de ces dépenses en établissant au profit des avocats et avoués un droit de timbre de 35 euros dans la plupart des procès. Les protestations n'ont pas tardé au nom du droit au juge et le Conseil constitutionnel sera très probablement saisi. Par ailleurs, la multiplication des recours au nom du droit au juge crée des problèmes pour la justice. Elle conduit en effet à confier au juge un rôle nouveau dans nos sociétés. Du fait du développement des droits garantis et des interventions accrues du législateur, il est demandé aujourd'hui au juge de statuer dans des domaines qui lui étaient autrefois étrangers. J'en fournirai 2 exemples. Le premier concerne les rapports de la science et de la religion. Dans les années 1920, est né aux États-Unis un mouvement dit créationniste, prônant une interprétation littérale de la Bible et rejetant la théorie de l'évolution. Dans plusieurs États du sud des États-Unis, des lois intervinrent pour prohiber l'enseignement de la théorie de l'évolution ou pour imposer l'enseignement du créationnisme en même temps que celui du darwinisme. Ces lois furent contestées devant les tribunaux, comme contraires au premier amendement à la Constitution américaine, selon lequel le Congrès ne fera aucune loi au profit d'une religion établie. Le but de cette disposition, c'était évidemment d'éviter l'établissement de l'Église anglicane aux États-Unis. Mais enfin, la situation a évolué depuis lors. La Cour suprême du Tennessee, dans un jugement célèbre de 1927, estima une loi de ce type conforme au premier amendement. La bataille judiciaire s'est poursuivie pendant des décennies, jusqu'en 1968, puis en 1987, où la Cour suprême en a décidé autrement en ce qui concerne les législations de l'Arkansas puis de la Louisiane. Mais il n'est pas sans intérêt de noter qu'au cours de ces divers procès, il fut savamment discuté de la question de savoir si le récit biblique de la création ne pouvait pas être interprété comme compatible avec la théorie de l'évolution. La justice australienne a eu à connaître plus récemment d'une affaire analogue concernant l'Arche de Noé. Elle opposait un professeur de géologie et un missionnaire protestant qui prétendaient avoir découvert près du mont Ararat les restes fossilisés de l'Arche et multipliaient les écrits et les conférences pour faire partager ses convictions avec l'aide d'une association pour la recherche de l'Arche de Noé. La question était de savoir si en procédant de la sorte, il n'avait pas méconnu les droits des consommateurs, car une loi locale sanctionnait pénalement les sociétés engagées dans des activités commerciales qui auraient un comportement de nature à tromper le public. La requête fut rejetée par la Cour fédérale australienne. Mais là encore, le juge n'hésita pas à entrer en matière en plaçant en exergue de son arrêt une citation de Darwin reconnaissant l'œuvre divine. Dans un ordre d'idées tout à fait différent, on observera que la justice a de plus en plus à prendre parti sur des faits historiques et à les caractériser. Cette évolution a été favorisée par la tendance du droit contemporain à rendre imprescriptibles certaines infractions particulièrement graves. Elle a aussi, dans le cas de la France, été par la multiplication des lois dites mémorielles, avec la loi de Guesso de 1990 sur la Shoah, les deux lois de 2001 reconnaissant pour la première le génocide arménien et condamnant pour la seconde la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, et enfin la loi de 1905 sur l'enseignement du fait colonial. La conformité à la Constitution de certaines de ces lois a été contestée en justice. La Cour de cassation a rejeté le recours concernant la loi Guesso, tandis que le Conseil constitutionnel a annulé certaines dispositions de la loi de 2005. Mais il est encore plus intéressant de se pencher sur l'évolution de la jurisprudence en ce qui concerne la légitimité du gouvernement de Vichy. En 1952, le Conseil d'État avait estimé que la République ne pouvait être tenue pour responsable des agissements de ce gouvernement de fait, dont les lois avaient d'ailleurs été pour la plupart abrogées rétroactivement à la Libération. À la suite de la condamnation de Maurice Papon en 1998, ce dernier s'est cependant retourné contre l'État, en soulignant qu'il avait été tenu pour pénalement et civilement responsable d'actions qu'il avait engagées en exécution des lois de Vichy, en tant que secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Il demandait à être garanti par l'État des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Le Conseil d'État, en 2002, lui a donné partiellement satisfaction en partageant pour moitié la responsabilité encourue par l'intéressé pour faute personnelle et celle de l'État du fait de l'organisation des déportations par le gouvernement de Vichy. Puis, dans un avis contentieux de 2009, le Conseil a confirmé la responsabilité de l'État, je cite, « en raison des dommages causés par les agissements du gouvernement de Vichy, qui ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. » Ainsi, ces exemples montrent que le juge a été amené à changer le regard qu'il posait sur l'histoire, et par là même à contribuer à la reconstruire. Concluons, il existe un droit au juge, ou plutôt un droit au recours, celui du citoyen à saisir le juge et d'en obtenir un jugement. Ce droit doit être garanti par l'État, qui doit organiser de manière satisfaisante le service public de la justice. Mais ce droit, comme tout droit, a des limites. Il ne saurait être transformé en slogan, susceptible des pires abus, et en outre et surtout, il ne saurait être érigé en absolu. N'oublions pas que le droit ne saurait régir l'ensemble des rapports sociaux. N'oublions pas davantage que le procès est un phénomène pathologique et même, comme le reconnaît la sagesse orientale, l'aveu d'un échec. Le droit n'est pas une marchandise comme une autre. La justice n'est pas un service public comme un autre. Il convient d'en demeurer conscient si l'on veut que le droit au juge ne tue pas le droit au juge.
Vous pouvez lire l'intégralité de la communication de Gilbert Guillaume sur le site de l'Académie www.asmp.fr, rubrique Actualités.